La falaise de verre. Ah, j'aurais pas vu ça comme ça, moi. Non, moi, je pense qu'il faut saisir les opportunités. Enfin, moi, je sais que personnellement, je suis leaduse.
Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous accueillir dans un 563e numéro de Zoom Zoom Zen, l'émission qui chaque après-midi décortique les mots de notre époque. Et d'emblée aujourd'hui, j'aimerais couper court à une vilaine rumeur qui voudrait qu'en cette fin de troisième saison, alors que la fatigue accumulée pèse de plus en plus lourd sur les épaules déjà accablées par l'ostéoporose de Cyril Lacarrière, notre rédac-chef en pré-retraite, j'aimerais donc couper court à cette rumeur, selon laquelle Cyril serait arrivé, je cite, à court d'idées en matière de thème d'émission. C'est évidemment une fake news colportée par nos ennemis, Roman Doduic et Thomas Croisière, car au contraire, en cette fin de saison, Cyril bouillonne littéralement d'idées. Ce matin, en le voyant arriver au volant de son Ford Raptor immatriculé 2B, je cite, pour pas que les gens m'emmerdent, FG à fond dans l'autoradio, j'ai su qu'on se dirigeait une fois de plus vers une grande journée pour le gai savoir. Après avoir klaxonné Sybille Veil, qui avançait trop lentement à son goût, et lui avoir fait une queue de poisson pour lui piquer sa place dans le parking, celle où c'est écrit « réservé comex », Cyril était arrivé radieux à la rédaction. Certes, la veille, il avait un peu galéré à trouver un nouveau mot dans l'air du temps, sachant qu'en trois saisons, on commence à les avoir tous faits. Mais finalement, il a croisé Gérald Darnaud, mon auteur, doté d'ailleurs de très jolies chemises.
Et oui, avec une belle cigogne.
Qu'il avait croisé dans le tunnel sous Châtelet. C'était la première fois qu'il essayait le crack. Et quelques minutes plus tard, il avait trouvé notre sujet du jour. On va zoomer sur les falaises de verre. Super idée, s'est exclamé Gérald, qui faisait déjà chauffer la cuillère pour le deuxième rail.
Oh,
alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de falaise de verre? Et si c'était moins barré que ça en a l'air? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Catherine Bonneville-Moravski.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes auteure conférencière et vous avez créé le cabinet conseil Eragina qui promeut la mixité en entreprise. Vous avez d'ailleurs écrit La mixité en entreprise, Tout savoir pour agir en 2022 aux éditions Ellipse. Ensemble, on va donc découvrir ce concept de falaise de verre, puisque après le plafond de verre, voilà maintenant qu'on précipite parfois les femmes depuis une falaise de verre. En gros, quand un poste ou une mission est trop risqué, voire carrément infaisable, perdu d'avance, plutôt que d'envoyer un homme, on envoie une femme. Vous allez nous expliquer dans le détail, juste le temps de vous présenter mes précieux acolytes. À commencer par celle qui aujourd'hui a trouvé l'exemple parfait de cette falaise de verre. Bonjour Manon Mariani.
Bonjour, bonjour à tous.
Oui, bah, je vous demande votre sujet.
Bah, très bien, vous savez que vous avez une petite phrase avant pour me lancer, mais bon, très bien. Oui, je vais vous présenter la candidate Renaissance aux européennes. Beaucoup lui sont tombés dessus l'année dernière après sa campagne, même si elle a endossé le rôle qu'aucun de ses collègues masculins ne voulait prendre.
Eh oui, on s'en souvient. Ici même, il y a eu un petit événement d'ailleurs avec Gabriel Attal, vous vous en souvenez?
J'en parlerai tout à l'heure, avec un très bel extrait sonore.
Voilà. Très bel extrait sonore, effectivement. Face à vous, Catherine, un peu comme Simone Inzaghi, le coach de l'Inter Milan, qui passe ses nuits à revoir sa défaite 5-0 contre le PSG pour l'analyse et revenir plus fort, il a passé la nuit à réécouter sa chronique d'avant-hier face à Christophe Beaugrand. Mais il a beau l'analyser, il ne comprend pas pourquoi son histoire du secret du vélo en carbone dans Ouest-France n'a pas eu l'effet waouh qu'il espérait.
C'est la dépêche du midi.
Oui, qu'importe.
Continuez. Je vous en prie.
Christophe Beaugrand n'a pas noté ce détail.
Non, mais il n'a pas noté grand-chose.
Heureusement, tout ce qui ne vous tue pas ne vous rend plus fort. C'est pourquoi vous revenez aujourd'hui, Quentin, avec votre exercice favori, le micro-trottoir.
Ah ben bonjour Mathieu, j'espère qu'il a écouté Christophe Beaugrand.
Ah, la méchanceté de ce garçon.
Mais, oui, mais
vous êtes fou.
Mais non, mais c'est vrai.
Vous êtes revanchard.
Vous êtes méchant.
Revanchard.
Jamais, jamais.
Vous êtes teigneux.
C'est un très bon invité.
Il est teigneux, c'est le mot.
Qu'est-ce qu'on a ri avec Christophe? À vous peut-être Mathieu, vous avez aussi une phrase.
Quentin, hein. J'imagine que des visages ahuris, vous en avez croisé en 562 émissions, mais là, avec la falaise de verre, vous avez dû être particulièrement gâté.
J'ai galéré, personne n'a su me donner l'exacte définition, mais j'ai appris quelque chose aux gens avec qui j'ai discuté dans la rue. Et n'est-ce pas là, Mathieu, la plus belle mission du service public?
Mais bien sûr, Quentin.
Hein, un micro-trottoir complètement à la rue dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, histoire de faire mentir notre phénomène de la falaise de verre, nous jouerons avec les femmes qui justement ne sont pas tombées de la falaise alors que c'était très très haut. Le Zoom Zoom Test, qui n'a pas reçu la validation de Cyril aujourd'hui, sera consacré à ces femmes qui ont fait mieux que les hommes. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Tania Dutel du retour d'une tournée monumentale en Australie. Après 17h, faut-il taxer les riches? Le Sénat se penche sur la question et on peut toujours compter sur le Sénat pour étouffer ce genre d'initiative. On en parlera néanmoins avec une économiste qu'on adore dans Zoom Zoom, mais d'abord, premier thème aujourd'hui, avec vous Catherine Bonneville-Moravsi, cette falaise de verre, est-ce que c'est le nouveau plafond de verre ou c'est plus pernicieux que ça encore?
Ni l'un ni l'autre, c'est pas le nouveau plafond de verre, c'est un autre phénomène que le plafond de verre.
Le plafond de verre, en fait, correspond à des moments dans l'entreprise où les femmes sont proches des postes de direction. Elles les voient comme au travers d'une vitre, mais elles se cognent la tête parce qu'elles n'arrivent pas à passer sur le cap pour aller vers ces postes-là. Donc ça, c'est le plafond de verre qui existe toujours, malheureusement. La falaise de verre, c'est un phénomène différent qui a été mis en exergue par deux chercheurs britanniques au début des années 2000 et qui, en fait, fait que on a constaté que quand les entreprises vont mal, quand il y a peu de chances de succès, quand il y a beaucoup de risques d'échec, les femmes ont plus de chances d'avoir un poste, effectivement, à responsabilité.
On va y revenir donc dans cette émission, dans cette heure ensemble. Après avoir frôlé, il faut le dire, le coup de génie hier, l'avoir annoncé en tout cas, avant de finalement nous livrer une chronique normale, Cyril Lacarrière nous rejoint pour un 563e d'où ça sort.
Ça veut dire quoi, normal?
C'est une bonne chronique.
Vous habituez...
Je veux dire de bonne facture, Cyril.
Ah oui, c'est ça.
Il n'y a pas eu ce coup de génie qui consiste parfois à quitter le studio. C'est arrivé une fois, c'était magnifique. Cyril, pas le plus facile des sujets aujourd'hui, hein, mon cher Cyril.
Oui, vous, mon cher Mathieu. Oui,
effectivement, vous avez écarté.
Vous allez réussir à faire un lancement.
Attends, depuis quelques jours, Cyril n'a plus rien à faire. Il me parle au milieu du lancement, ce qui fait que je ne peux pas reprendre ce que j'ai prévu de dire. Non, c'est vous qui ne respectez pas le cahier des charges de cette émission.
Ça se finit toujours par d'où ça sort.
Oui, c'est ça. Bon, le concept de falaise de verre, d'où ça sort, Cyril, débrouillez-vous.
C'est à deux chercheurs anglais qu'on doit notre notion du jour, Michel Ryan et Alex Aslam, de l'université d'Exeter, c'est dans le sud-ouest de l'Angleterre. C'est en 2004 qu'il forge cette notion, une notion qui apparaît dans une étude publiée un an plus tard, le titre de l'étude des deux psychologues sociaux.
The Glass Cliff, Evidence that women are overrepresented in precarious leadership positions.
Elle a votre accent.
Oui, j'ai parle encore anglais. Plus mal anglais que vous.
La falaise de verre prouve que les femmes sont surreprésentées dans les postes de direction précaires. En substance, voilà ce qu'ils disent. Là où les femmes se heurtent à un plafond de verre, les hommes bénéficient d'un escalator de verre. Mais que se passe-t-il lorsque les femmes parviennent à occuper des postes de direction et quel type de poste on leur attribue? Eh bien, elles sont plus susceptibles que les hommes à se retrouver au bord d'une falaise de verre. Un constat dressé après une étude des performances des entreprises du FTSE, c'est l'indice boursier des 100 entreprises anglaises les mieux cotées à la Bourse de Londres. Et donc, leur sujet d'étude, c'était de savoir comment allaient ces entreprises avant et après la nomination d'une femme à un poste de direction. On parlera des résultats dans cette émission.
Et pourquoi ces femmes étaient nommées?
Deux raisons notamment, deux mauvaises raisons. Une perception genrée, parce qu'une femme est perçue comme plus empathique ou plus apte à gérer des relations de situations humaines complexes. Et un effet de vitrine. Nommer une femme permet d'envoyer l'image d'une entreprise progressiste et moderne. Et pour quelles conséquences? Eh bien, si la femme en question échoue, elle sera responsable. Et ça renforcera le stéréotype négatif que se traînent les femmes sur leur capacité à diriger. Et si elles réussissent, eh bien, à part Elon Hunt, en fait, l'émission impossible, c'est rare qu'on les réussisse. Alors,
et parce que Elon, c'est un mélange d'Elon Musk et de Ethan Hunt.
Oui, comme je parlais d'Elon tout à l'heure, j'ai un peu mélangé tout ça. Alors,
un verre de rosé, c'était déjà trop.
Comment ne pas tomber de cette falaise? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Et comment ne pas tomber de la falaise? Ça pourrait être le titre de votre autobiographie, Cyril. Magnifique, d'où ça sort. Catherine Bonneville-Moravski, en écoutant Cyril, on se dit que les femmes sont placées parfois à des postes périlleux, finalement contre leur gré. Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Alors, contre leur gré, dans le monde de l'entreprise.
Oui, restons dans l'entreprise pour l'instant.
Restons dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, on ne met pas quelqu'un contre son gré à un endroit. Donc, en fait, ce qui se passe, et ce n'est pas tout le temps, il ne faut pas en faire une généralité, mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'on propose des postes qui sont assez périlleux à des femmes, certaines y voient l'opportunité d'aller là où elles essaient d'aller depuis des années et pour une fois qu'on leur propose, elles ne peuvent pas dire non. Donc elles y vont pour cette raison-là, mais on ne peut pas leur imposer. On ne peut pas dire à une femme c'est casse-figure, pour ne pas dire plus, donc tu vas y aller. Donc elles y vont parce qu'elles décident d'y aller.
Mais elles s'en rendent compte que ça peut être casse-gueule.
Alors je ne suis pas dans la tête de ces femmes-là et surtout pas de l'ensemble de ces femmes-là, parce que autant de cas, autant de situations différentes, mais bien entendu. Mais bien entendu qu'elles savent qu'elles connaissent la situation. Certaines font certainement le lien entre le fait qu'on leur propose et le fait que la situation est quand même très difficile. Mais c'est l'opportunité, effectivement, alors que depuis des années, pour certaines, elles demandent à aller à un certain niveau hiérarchique, à un certain niveau de responsabilité, eh ben, c'est l'opportunité d'y aller. Et elles savent que si elles disent non, eh ben, peut-être qu'après, on leur reprochera. On pourra leur dire, bah, écoute, la dernière fois, on t'a proposé quand même la direction de la filiale, t'as pas voulu y aller, ben non... ne viens pas nous dire que tu veux monter dans la hiérarchie.
Est-ce qu'il y a des visages connus qui incarnent cette falaise de verre des femmes qu'on a propulsées sur le devant de la scène au moment où c'était un peu casse-gueule?
Oui, alors oui, il y en a, mais on va parler, comme toujours, quand on parle des sujets liés à la mixité, on parle très souvent que du CAC 40. Parce que c'est d'abord les endroits où on voit ce qui se passe réellement. Dans les autres entreprises, on ne voit pas forcément ce qui se passe. Et puis, ce sont les endroits que le grand public connaît un peu plus. Ça leur parle. Donc, dans le monde de l'entreprise, on a beaucoup parlé. Il y a eu quand même beaucoup, les médias ont beaucoup repris le départ d'Isabelle Cochère, de chez Engie. Et a posteriori, c'était quand même un vrai sujet de falaise de verre. Elle a pris un poste qui était un poste dans lequel il y avait des ambitions très fortes et un contexte très compliqué de transformation. Il fallait aller vers les énergies renouvelables, il fallait transformer tout le groupe, l'organisation, les fonctions support, faire des économies d'échelle, etc. Elle a pris ce poste, elle a réussi. En tout cas, tous les experts financiers reconnaissaient la valeur de ce qu'elle avait fait. Et puis, il y a eu le conseil d'administration, avec un homme à la tête du conseil d'administration, a commencé à lui reprocher des manquements, je dirais, sur le management, sur le leadership, sur le fait qu'elle n'avait pas su s'entourer des bonnes personnes dans le COMEX, etc., etc.
Alors que les chiffres étaient bons.
Et alors que tous les résultats étaient au vert. Et qu'elle avait réussi la feuille, quoi, qu'elle avait tenu la feuille de route qu'on lui avait donnée.
France Inter. Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël.
Après le plafond de verre auquel se heurtent déjà les femmes, voici maintenant la falaise de verre. La fondatrice du cabinet conseil Eragina qui promeut la mixité en entreprise, Catherine Bonneville-Moravski, est avec nous pour nous expliquer ce principe. Catherine, quand on décide de mettre en avant les femmes et de leur faire endosser la responsabilité d'une entreprise en difficulté, par exemple, est-ce qu'on espère qu'elles se planteront ou est-ce qu'on espère quand même qu'elles réussiront? Il y a quand même une entreprise derrière, donc j'imagine que l'intérêt c'est quand même qu'elles réussissent. Donc c'est un peu le paradoxe de cette notion.
Autant, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, autant de situations, autant de cas différents. Oui, bien sûr, quand on les met, on espère qu'elles vont réussir globalement. Maintenant, on peut aussi mettre une femme dans un poste très difficile parce qu'on sait que de toute façon, c'est joué d'avance, que par exemple, une filiale va devoir fermer, etc. Et elle va se retrouver, en ayant officiellement échoué à relever la filiale et deux, à devoir gérer la fermeture de la filiale. Donc, on peut avoir les deux cas.
Quelle est la durée de vie d'un poste en falaise de verre, la longévité? Est-ce que ça peut être 3 mois, 3 ans? Est-ce qu'on peut pérenniser ce poste-là?
Je dirais que là aussi, plein de cas très différents. Vous avez des personnes qui peuvent rester 2 ans, 3 ans. Quand même, en principe, on leur laisse le temps d'essayer de faire quelque chose. Et qui réussissent ou qui échouent. Et qui peuvent partir, on pourra peut-être en reparler, mais même quand elles réussissent, souvent on les fait partir.
Elles ne conservent pas en fait le pouvoir
pas
derrière.
Pas tout le temps. Et puis d'autres qui réussissent, je donnais le cas tout à l'heure de General Motors, avec une présidente qui a été nommée en 2014 alors que General Motors allait au plus mal, au bord de la faillite, sauvée par des emprunts d'État, etc. Elle est encore là aujourd'hui. Parce qu'elle a fait le job et qu'on ne l'a pas sortie.
Donc, ce n'est pas une fatalité, la falaise de verre. On peut être nommé sur un principe de falaise de verre, mais être tellement forte qu'on renverse la tendance.
Oui, alors je ne sais pas si on peut le lier au fait d'être forte, mais en tout cas, l'environnement peut être plus ou moins bienveillant, plus ou moins, avec des objectifs différents.
On parlait tout à l'heure des clichés souvent misogynes qui engendrent ce système, mais est-ce que les femmes dirigent différemment que les hommes?
Alors là encore, c'est un peu stigmatisant. C'est-à-dire que, quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se dit, bon là ça va être difficile humainement, il y a un plan social à mener, les femmes, elles sont à l'écoute, elles sont bienveillantes, elles savent entraîner les gens avec eux, c'est très stigmatisant en fait. C'est un stéréotype. Donc je pense que le vrai sujet de l'entreprise, c'est de s'interroger sur ce qu'on appelle, aujourd'hui c'est un peu galvaudé comme mot aussi, mais le leadership qu'on attend dans l'entreprise. Donc est-ce que c'est lié à un leadership différent ? Je ne sais pas. En revanche, ce qui arrive fréquemment, c'est que des hommes peuvent se dire « Mais en fait, on a tout essayé, on n'y est pas arrivé. Qu'est-ce qu'on a à perdre ?» Elle demande à prendre un poste à responsabilité. On va la nommer, puis on va voir ce qu'elle fait. C'est...
Mais on en attend plus d'elle, du coup.
On en attend plus d'elle, parce que quand vous prenez un poste dans une situation difficile, vous avez beaucoup plus de choses à faire pour arriver à sortir de la situation et à revenir sur une spirale positive que quand on vous met à la tête d'une entreprise qui va très bien. Donc oui, on en attend beaucoup.
Pardon, ce phénomène falaise de verre, c'est uniquement quand une entreprise va mal ou qu'il y a une restructuration, oui. et ça n'arrive pas quand c'est le beau temps pour l'entreprise.
Non. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne nomme pas de femmes à la tête d'entreprises qui vont bien. Hein. Ça veut dire que statistiquement, dans les recherches qui ont été faites, on se rend compte que quand une entreprise va mal ou quand il y a des dangers qui se profilent, les femmes ont plus de chances d'être nommées à la tête de cette entreprise-là.
Mais est-ce qu'on peut se servir d'un poste en falaise de verre comme un tremplin en tant que femme, pour par exemple faire un mouvement vers une autre entreprise ?
Alors, oui ou non ? Ça dépend comment ça se termine. Ouais. Imaginez bien que quelqu'un qu'on a voué aux Gémoniques, où on a dit « mais elle est géniale, elle va prendre telle boîte, etc., elle va faire des miracles », et puis 2 ou 3 ans après, on la sort comme une malpropre en disant « mais en fait, elle n'est pas aimable avec les gens avec qui elle bosse, elle ne sait pas manager, elle ne sait pas s'entourer, etc. », aller retrouver un poste derrière. Mmh. Si on reprend l'exemple d'Isabelle Cochère, alors je ne veux pas parler à sa place, mais elle a monté sa propre boîte.
Ah oui, elle s'est créée sa propre opportunité.
Elle a créé une boîte de conseils.
Elle a trouvé la solution. Ouais. Christophe Beaugrand, 5, Quentin Luy, 0, titré L'Équipe ce matin.
Non mais Christophe Beaugrand n'est pas dans l'équipe.
Beaugrand qui rejoint la longue liste des invités qui ont été bons, mais qu'on n'invitera plus parce qu'ils sont foutus de la gueule de l'un d'entre nous. Liste noire qui va de François Gémen, qui avait pensé qu'on avait le même âge, à Bernard Dolez, qui avait osé reprendre Cyril sur son D'où ça sort, comme si un dessinateur amateur reprenait Picasso. En passant par Nagui, bon ça c'est une autre histoire. Oublions tout ça et concentrons-nous. On a plus beaucoup d'amis.
Ça concerne que les hommes, c'est ça qui est bien.
On va pas trouver d'invité la saison prochaine. Quentin, revenons à votre micro-trottoir. Oui. Avec une notion pas encore très connue du grand public. Hein.
C'est une fin de matinée qui ressemble à l'été. Je croise Nina qui a pris un café emporté. Elle bouge la tête au rythme d'une musique qui accompagne son trajet du matin avec ses écouteurs. Que fait-elle dans la vie ?
Moi, je suis musicienne. Donc mon truc, c'est la musique. Quoi.
Elle découvre le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen.
La falaise de verre. Non, je vois pas ce que c'est, non.
Ce serait quoi ?
Je sais pas, un truc psychologique. Non, je sais pas. La falaise de verre désigne le phénomène selon lequel les femmes et parfois les minorités sont nommées à des postes de leadership ou de responsabilité en période de crise ou d'instabilité quand les risques d'échec sont plus élevés. Autrement dit, on leur tend la main au bord du précipice. Ah, j'aurais pas vu ça comme ça, moi.
Je lui explique quand même. Hidalgo, par exemple, en 2022, le PS envoie sur la pente toute lisse de la présidentielle la maire de Paris, par exemple. Ça, c'est un exemple de falaise de verre en politique. Comment elle voit la chose ?
Non, moi, je pense qu'il faut saisir les opportunités. Enfin, moi, je sais que personnellement, je suis leaduse. Justement, plus on aura l'image de femme forte et au pouvoir, plus peut-être l'avenir fera en sorte que, justement, ce sera pas que dans les moments... Voilà, ou c'est la crise, ou parce que là, on a besoin de ça, ou quoi, ou qu'est-ce. Je pense que c'est toujours bon à prendre, et surtout pour l'avenir. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, ça fait peut-être bouche-trou ou quoi que ce soit, mais pour l'avenir, c'est important. Et justement, il faut faire en sorte que ce soit quelque chose de naturel et de... Enfin, voilà, commun, quoi.
J'arrête maintenant cet homme au look de retraité assez chic avec sa veste grise. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
François.
François, vous avez quel âge ?
77 ans. La falaise de verre, ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas, c'est la première fois que j'entends parler de ce concept. Donc je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pas d'exemple en tête de ça. Hein. Je ne sais pas, ce concept ne m'inspire pas beaucoup.
En tant qu'homme blanc de plus de 70 ans, c'est peut-être compréhensible que de son prisme, il ne se soit pas interrogé un jour là-dessus dans sa vie. Cette jeune femme maintenant, penchée sur un bloc en granit, elle est en train de savourer une boisson fraîche. Elle veut bien nous répondre.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Pauline, je vais avoir 24 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis serveuse en restauration.
Est-ce que les gens sont sympas en général ?
Les gens sont très sympas en général.
Il y a encore des pourboires.
Il y a encore beaucoup de pourboires. On dirait pas comme ça, mais les gens sont super généreux. Merci aux gens.
Elle a l'air un peu blasée en découvrant notre thème.
La falaise de verre. Oh, moi ça va. J'ai beaucoup de chance, c'est que on a un monde charge en fait. C'est pas nous qui faisons la plonge dans le restaurant, donc paf, on fout notre falaise de verre dans le monde charge, ça descend, ça dégage.
Alors, Pauline, il y a une petite méprise. Je ne parlais en aucun cas des verres à boire dans le restaurant. Pauline, elle pense boulot, boulot, boulot. Alors, je lui donne la vraie définition.
Or,
Vous voyez, vous, en entreprise, dans le monde de l'entreprise, que ça reste quelque chose de très masculin?
Ah oui, bien sûr que oui. Ah oui, ouais, ouais, évidemment. Ah ouais. On donne toujours, toujours les responsabilités à un homme, on essaye toujours de faire en sorte que ce soit un homme qui prenne les décisions, que ce soit un homme au-dessus de nous, on va dire. Mais non, ça reste quand même, malgré l'évolution, ça reste quand même toujours hyper masculin, bien sûr que oui.
Ça vous met un coup en tant que jeune femme?
Ah ouais. Ouais, franchement, ouais. Surtout en tant que jeune femme. Parce que c'est extrêmement... C'est encore plus compliqué de se faire respecter en tant que jeune femme.
Ouais, c'est la double peine. Elle parle un peu plus du plafond, elle, mais la falaise, quand même. Le danger de cette falaise n'est-il pas aussi d'effrayer des jeunes femmes à qui on proposerait aussi, à un moment donné, un poste à responsabilité, qu'importe le domaine? Ma dernière rencontre, c'est Marilyn, la cinquantaine, très en forme. Je lui présente la...
La falaise de verre.
C'est-à-dire, dans une entreprise, dans un parti politique, quand ça va être la merde, on envoie les femmes.
Voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Parce qu'elles sont peut-être plus courageuses, plus solides à ce niveau-là, quand il y a beaucoup plus de problèmes. Les hommes sont peut-être un peu moins courageux à ce niveau-là.
Est-ce une question de courage? C'est le piège d'ailleurs de la falaise de verre. On envoie les femmes au casse-pipe.
Mais c'est la vie.
Mais ça dit qu'il faut se battre deux fois plus ou trois fois plus quand c'est on vrai. Est une femme.
C'est vrai, mais c'est la vie.
Vous l'avez accepté? Vous n'êtes pas en colère contre cette
non.
société-là?
Non, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, je garde mon énergie pour ce que je peux faire. Et pas pour ce que je ne peux pas faire. Pour ce que je ne peux pas changer.
Vous n'êtes pas féministe, vous?
Pas du tout. L'homme reste à sa place, la femme aussi. Et c'est comme ça qu'on a la paix. Wow. Ça n'engage que moi.
À la cuisine.
Vous êtes étonnée, je vois. C'est moi qui vais vous interviewer à la fin.
C'est-à-dire que j'ai toujours du mal, et ça m'arrive en enregistrant, à envisager qu'une femme ne soit pas un peu féministe. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas les problèmes sociétaux du patriarcat, des hommes qui prennent les places.
Si, je le vois, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Si c'est comme ça, on ne peut pas changer. C'est comme en politique, entre ce qu'on nous dit et ce qui se passe vraiment, il y a un monde. Donc les gens pensent qu'ils peuvent changer quelque chose, mais finalement pas du tout.
Donc vous êtes féministe, mais résignée.
Voilà, bonne conclusion.
Sur cette falaise de verre, il y a celle qu'on pousse, celle qui tombe, et puis celle qui regarde en bas, en se demandant si le jeu en vaut vraiment la glissade, et si le risque était d'être résignée.
Catherine Bonneville-Moravsky, comment on peut alerter sur ce phénomène réel de la falaise de verre sans effrayer finalement les jeunes femmes qui se diraient « Attention, on me propose un poste à responsabilité, ça cache peut-être une falaise de verre ».
Alors, je pense que alerter, c'est pas forcément nécessaire. Les jeunes femmes qui ont des promotions sont capables, a priori, de mesurer là où elles mettent les pieds. En revanche, et ça, certaines entreprises le font aujourd'hui, c'est que culturellement, parce qu'il faut faire très attention quand on parle de ces sujets, c'est pas des généralités, hein, c'est pas toutes les femmes sont comme ci, tous les hommes, mais culturellement, effectivement, les femmes ne voient pas certaines choses. Et donc, ne voient pas, par exemple, la force des réseaux au sein des entreprises, ne voient pas que plus on monte dans la hiérarchie, en fait, plus que ce qu'il compte, c'est pas forcément les résultats, les objectifs qu'on vous donne chaque année, c'est plutôt votre comportement, les liens que vous créez dans l'entreprise, le fait que vous anticipiez un certain nombre de choses, etc.
Il suffit pas de bien faire son taf,
non.
Il faut beaucoup
plus vous montez dans la hiérarchie, plus bien faire votre taf, c'est le préalable requis, mais c'est pas... Et donc, une façon de faire, c'est de former les femmes et certains hommes, hein, parce qu'il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes, c'est de leur expliquer tout ça, de leur expliquer qu'il y a des règles du jeu dont
d'avoir
on parle
les codes,
jamais.
Les codes de ces postes-là.
Les codes de l'entreprise. Ouais.
Ben est-ce que cette falaise de verre, en fait, elle ne joue pas avec ce syndrome de l'imposteur dont on parle énormément, que ressentent souvent les femmes?
Je ne pense pas, parce que le syndrome de l'imposteur, vous voyez, c'est une femme à qui on propose une promotion et qui trouve toutes les bonnes raisons pour pas y aller. C'est-à-dire qu'elle a 99% des compétences, mais elle a managé 18 personnes, et là, il y en a 19. Elle va dire, ah, mais non, mais j'ai jamais managé 19 personnes. On n'en est plus là, dans la paroi de verre. On en est plutôt... celles qui y vont, c'est celles qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur. C'est celles qui se disent, mais en fait, on propose un poste auquel je rêvais depuis longtemps. Certes, pas forcément dans ce contexte-là, mais j'y vais. Parce qu'on me le propose cette fois-ci.
Et ça, ça a changé parce que Nina, par exemple, dans la rue, qui se revendique comme une leaduse, est-ce que déjà ça, c'est nouveau par rapport à il y a 30 ans, peut-être, aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, il y a certainement, et encore, je dis certainement, il faudrait se pencher. Moi, je dis, quand on parle de ces sujets, il faut toujours regarder les chiffres, parce que après, il y a la perception qu'on peut avoir et qui n'est pas toujours la bonne. Mais oui, avec tout le bruit qu'il y a eu autour de ça, avec des changements de posture, de formation, etc., il y a certainement plus de femmes qui osent dire qu'elles ont de l'ambition qu'avant.
Ouais.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Le Zoom Zoom Test, c'est comme un couple, mais à trois. Pour ne pas sombrer dans la routine, il faut sans cesse se renouveler, s'inventer de nouveaux jeux. Un trouble, exactement,
oui.
Manon.
Oui.
Comme Manon et Quentin refusent obstinément de se dévêtir pour un combat de boue qui serait pourtant assez radiogénique, je vous propose une variante. Une variante que vous aimez bien.
Ah, oui.
Mais je vous ai envoyé un mail, vous n'avez pas vu? Une variante que vous aimez bien du quiz. La variante dite de la bio Tinder. Le principe est simple, mais comme vous aussi, je le rappelle quand même, je vous lis la bio d'une femme qui a réussi à ne pas tomber de la falaise de verre. À vous de me dire quelle femme puissante se cache derrière cette bio Tinder. On démarre outre-Atlantique, dans ce glorieux pays qu'il sera encore plus quand Donald Trump aura fait mordre la poussière à ses hordes de hippies qui défigurent actuellement la Californie, les États-Unis d'Amérique. Cyril Flûte. Manon, Quentin, cette première bio Tinder étant très très facile, je vous laisse seulement 15 secondes pour la trouver. Top ! Salut mon loup, tu aimes les femmes puissantes, mais tu trouves que Beyoncé est trop jeune. Sur Pornhub, tu préfères la catégorie haute mature, comme ce pervers de Cyril Lacarrière. Bingo ! Plus riche que la plus riche de tes copines, j'ai interviewé plus de célébrités que Michel Drucker. Oprah Winfrey, c'est allé plus vite ! Du côté de Quentin, bravo Quentin Oprah. Et oui, comme Tom Sawyer, la queen ultime du talk show est née sur les rives du fleuve Mississippi, dans une famille très pauvre. Après une enfance difficile, elle va percer dans les médias et devenir la femme noire la plus riche du monde avec une fortune estimée à 3,4 milliards de dollars, soit autant que Kim K et Taylor Swift réunies. Sans les réseaux sociaux, c'est ça qui est fou. Mais restons aux États-Unis avec la prochaine bio Tinder que je vous livre. Si j'ai réussi à convaincre le monde qu'un pot de crème à 200 balles pouvait réparer ta life, alors je peux te persuader de matcher. Je suis pas là pour te masser l'ego, mais pour lui mettre du gloss. Swipe du bon côté si t'as autant de flair que moi.
Eva Longoria ?
Non. Je vous donne un indice parce que cette question est très difficile. Elle a lancé. Elle est connue pour ses crèmes, pour ses parfums. C'est une marque célébrissime.
Oui. Estée Lauder.
Estée Lauder, oui. Oh oui, on sent que madame en a dans le vanity case. Oui, bien avant Kim K, la reine du make-up, c'était Estée, fille d'immigrants juifs hongrois. Elle crée Youth Dew, une huile de bain doublée d'un parfum en 1953, dont elle vendra 150 millions de bouteilles, soit 150 millions de fois les ventes de la tasse Lucy Galou de Quentin. C'est elle aussi.
Il a que en prototype.
C'est elle aussi qui inventera le principe génial de la distribution d'échantillons gratuits et aura l'idée de demander aux célébrités de poser pour ses produits. En résumé, Manon, Rihanna lui doit tout. Mais attention, top à la bio. Domina en tailleur Chanel cherche soumis en costume cravate. J'espère que t'es endurant mon cochon et que t'as du coffre parce que moi j'ai pratiqué la natation synchronisée à haut niveau. J'aime la rigueur en toute chose. Mon kink, tenir les mecs par les bourses et les amener au bord de l'évanouissement en serrant au max les taux directeurs. Mets-moi des étoiles dans les yeux. Ton argent ne m'intéresse pas vu que c'est moi qui l'imprime. Christine Lagarde, Manon. Et qu'elle se presque en s'en fout cet après-midi. Quentin, ne jouez pas les innocents.
C'est l'intelligence, moi.
Quentin, ne jouez pas les innocents avec votre filtre 65 et plus sur Disons Demain. Vous avez matché avec Christine le mois dernier. Depuis, vous avez hâte qu'elle vous resserre les taux directeurs. Mais
elle
attention,
a plus de 65 ans.
On ne divague pas, on ne se touche pas, on reste bien installé dans la rame, le train du gai savoir redémarre. Trentenaire, Latina, woke, tu vas faire quoi ? N'essaie même pas avec ta Tesla et ta casquette MAGA. Le patriarcat, je lui sers une margarita au cyanure.
Ah, c'est...
Pardon ?
Non ? Alexia, Alexandra, non, Cortès.
Non. Le patriarcat, je lui sers une margarita au cyanure et le capitalisme, je l'éclate à coup de mème. Je cherche pas un sugar daddy, mon mec idéal, c'est Bernie Sanders.
Match, Alexandria.
Si tu peux, si t'es Marx et Cardi B, je suis Alexandre.
Alexandria,
Dria,
Oscario,
Cortez. C'est catastrophique. C'était presque ça. Alexandria, Ocasio-Cortez. Je ne peux pas vous le compter.
Vous avez vu ça.
Personnalité politique iconique pour Manon. Satan en jupon pour Cyril. L'ex-serveuse devenue cauchemar des milliardaires a été à 29 ans la plus jeune parlementaire jamais élue au Congrès des États-Unis et une cible de choix pour les Trumpistes. Elle a même été publiquement traitée de fucking bitch par Ted Yoho, un républicain en 2022. Et pire que ça, d'Alexandria Ocasio-Cortex par mon ancienne complice Eva Rock, qui maintiendra longtemps à l'antenne qu'elle s'appelait bien Cortex, comme vous Manon. Elle avait du mal avec son nom, elle avait trop vu, je pense surtout, Minus et Cortex. Et pour finir, retour en France.
Ah, quand même.
Il était temps, soupire Cyril en régie, oui. Pour la prochaine bio. Scientifique multitâche, c'est moi qui ai inventé le concept de briller de l'intérieur et repousser les limites du glow-up sans mascara. J'ai fait fondre les cœurs, les conventions sociales et aussi les éprouvettes. Si
Marie
tu veux
Curie.
Une love story radioactive avec une touche de génie, oui, Marie Curie, Manon, vous avez brillé la tête
on
de Quentin. On dirait l'autre jour face à Christophe Beaugrand. Ouais. Il s'est décomposé. Il est livide.
Non, magnifique. C'est plus agréable que Christophe Beaugrand, je vous le dis.
Victoire de Manon Mariani. Bravo Manon.
Bravo Manon. Bravo Manon.
Vous n'êtes, pas tombé de la falaise.
Non.
Vous avez été brillant.
Tout en haut.
Après le plafond de verre, la falaise de verre, zoom sur ce phénomène qui frappe les femmes. Catherine Bonneville-Moravski, spécialiste de la mixité en entreprise, est toujours avec nous. Alors Catherine, on a parlé pas mal du monde de l'entreprise, mais en politique, on a pas mal d'exemples, et récents en plus, de cette falaise de verre. Le premier qui vient à l'esprit, c'est Anne Hidalgo, la dernière présidentielle, qui avait peu de chance de faire un bon score, et encore moins de l'emporter. On est typiquement dans cette notion de falaise de verre.
Alors, Anne Hidalgo...
Ça vous semble pas évident, vous, Anne Hidalgo?
Non, il y a une chose qui me semble pas évidente dans cette situation-là, c'est qu'elle a été, elle s'est présentée et elle a été choisie par les militants. Donc elle connaissait la situation, elle s'est présentée et c'est pas des personnes, un petit groupe qui a décidé de la mettre.
Voilà. Donc j'ai dit une connerie. C'est pas la première et c'est certainement pas la dernière fois dans cette émission. On va citer plutôt Agnès Buzyn.
Agnès Buzyn, elle alors là, c'est totalement représentatif. Elle a rien demandé. Elle avait un ministère, elle avait mis en route un certain nombre de sujets, etc. Et alors que c'était couru d'avance qu'elle allait perdre et puis vraiment la racler, on lui a alors là pour le coup, je suis pas une spécialiste du monde politique, mais je pense qu'on a un peu imposé les choses quand même, où on a fortement
plus compliqué à refuser peut-être dans ce domaine, non?
Mais j'imagine, moi alors je suis pas une spécialiste du sujet du monde politique,
comme
mais...
vous dites que c'est la notion de réseau qui est très importante,
voilà,
tout le monde, c'est pas en politique, le réseau c'est le parti politique,
et puis de toute façon on peut pas demander à être maintenu dans un ministère si on veut plus de vous dans un ministère, si on vous dit non, tu pars là-bas et on va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Donc là c'est vraiment le cas typique de la méchante falaise de verre.
Méchante falaise de verre, Quentin.
Est-ce que les femmes qui arrivent à se maintenir au pouvoir, que ce soit en politique ou dans les milieux économiques, sont des femmes qui pour vous utilisent les mêmes méthodes que les hommes pour en arriver là?
Alors, qu'est-ce qu'on appelle méthode? En tout cas, ce sont des femmes qui ont une vision de ce qu'elles veulent faire, qui savent mettre en œuvre ce qu'il faut pour y arriver. Donc, sur le principe, c'est la même chose que les hommes.
Mais est-ce que dans un monde de requins, on ne devient pas même soi-même un requin?
Ah ben, de toute façon, on n'est pas au pays des bisounours. Hein.
Ouais.
On ne peut pas être à la tête, que ce soit, j'imagine, d'un parti politique ou de certaines responsabilités politiques, mais en tout cas dans le monde de l'entreprise. On ne peut pas être à la tête d'une entreprise, en ayant été gentil avec tout le monde tout le temps, en n'ayant pas fait de petits coups de batte de temps en temps, etc.
Regardez Adèle Van Rett. Oups, pardon, j'ai dit.
Ça balance.
Bisous Adèle. Manon.
Est-ce que les femmes accèdent à des postes à responsabilité, du coup, que en période de crise?
Non, heureusement. Non, heureusement. Là, on parle... vous voyez, par exemple, si on continue le départ d'Isabelle Kocher d'Engie, Catherine MacGregor, qui est arrivée après chez Engie, elle est arrivée dans une situation plus sereine, plus stable. Et là, on ne parle que des entreprises du CAC 40, bien entendu, et heureusement qu'il y a des femmes qui sont nommées à des postes à haute responsabilité, alors que, bien sûr, de toute façon, il y a toujours des difficultés dans des postes à haute responsabilité, mais qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Quoi.
Je reviens sur cette notion de cette culture du réseau qui semble étrangère encore aux femmes, en tout cas, les hommes, disons, ont plus l'habitude du réseau. Comment ça se fait que les femmes ont moins cette culture du réseau que les hommes au sommet des entreprises?
Alors, c'est très culturel. De toute façon, tout ce qui se passe sur le sujet de la mixité, c'est très culturel. Moi, je fais souvent un parallèle avec les cours de récréation. Quand vous regardez une cour de récréation de primaire, et encore, on est en train d'essayer de changer ça, vous avez les petits garçons qui jouent au foot pour gagner. Ils font leurs équipes, ils ne prennent pas leurs copains, ils prennent les meilleurs pour gagner, etc. Ils prennent toute la cour de récréation, ils laissent les filles sur le côté, qui elles sont par deux ou trois, qui essaient de trouver des points communs, qui disent peut-être des méchancetés sur les petites filles qui ne leur ressemblent pas, etc. Et bien, ils apprennent le réseau. ils apprennent le réseau. Donc en fait, là je vais très vite, je vais très vite, mais c'est très culturel.
Arrive très tôt, quoi.
Eh ben oui, parce que on met plus des petits garçons dans des sports collectifs que des petites filles, etc. Donc en fait, ils apprennent, ils comprennent comment ça fonctionne.
Alors qu'on met en concurrence souvent les petites filles entre elles.
Exactement. Quand on vous met à la danse classique et qu'il y a celle qui va être devant, vous voyez, c'est pas la même chose. C'est
donc
pas la même
chose. Il faudrait des cours de leadership. J'imagine qu'on trouvera une autre appellation plus française pour que les jeunes Français, les jeunes Françaises, dès l'école sachent quelles sont les ficelles à utiliser dans le monde de l'entreprise.
Il faut changer, mais c'est très difficile parce que c'est très culturel et on commence à le changer. Par exemple, il y a des écoles qui refont les cours de récréation et qui cassent le grand espace au milieu. Il y a des il y a de plus en plus de clubs de foot qui accueillent des filles, de rugby, etc.
Même et créent des équipes mixtes.
Voilà.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de découvrir Manon, l'autre personne à suivre.
Je vous présente Valérie Ayé. Elle a 38 ans, elle est française et c'est aujourd'hui la présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen. Fille d'agriculteur, juriste de formation, elle s'engage très tôt au MoDem, le parti de François Bayrou. Pendant des années, elle milite sur le terrain. En 2014, elle est élue conseillère, conseillère municipale à Saint-Denis-d'Anjou, sa commune d'origine. Puis, en 2017, lorsque François Bayrou s'allie à Emmanuel Macron, elle suit naturellement le mouvement. Deux ans plus tard, elle figure sur la liste Renaissance menée par Nathalie Loiseau pour les élections européennes. Elle est élue eurodéputée. En 2021, elle devient donc présidente de Renew Europe au Parlement européen. Mais c'est en 2024 que sa carrière prend un tournant beaucoup plus exposé. En pleine tempête politique, c'est elle que le camp présidentiel désigne comme tête de liste Renaissance aux élections européennes. Le défi est immense. Elle doit faire face à Jordan Bardella, star du Rassemblement National, omniprésent dans les médias, favori des sondages. Sa désignation fait beaucoup parler, une quasi anonyme comme candidate. La presse avait misé sur des candidats beaucoup plus connus comme Olivier Véran, Clément Beaune ou Bruno Le Maire. Selon certaines fuites du gouvernement, Valérie Ayé n'était que le 7e choix sur la liste des candidats potentiels. Elle a dû faire du média training pour se mettre au niveau forcément. Mais très vite, elle se heurte à l'indifférence médiatique. Elle peine à exister dans une campagne dominée par les figures masculines. Emmanuel Macron et Gabriel Attal, alors Premier ministre, cristallise toute l'attention. Un épisode l'illustre parfaitement. Lors d'une émission organisée par France Info qui met en lumière les têtes de liste aux européennes, Valérie Ayé est là, prête à répondre aux questions. Sauf que ce jour-là, Gabriel Attal débarque à l'improviste.
Monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
Salut Gabriel.
Ça va, tu veux bien? Très bien. Bonjour, vous allez bien?
Bonjour, ça va?
Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène.
Complètement imprévu.
Pas candidat, pas sur la liste, ils veulent littéralement la vedette à Valérie Ayé, non pas Ayé. Ce moment dit tout, même en campagne, même investi, une femme peut être reléguée au second plan en une seconde sans que personne ne s'en étonne. Valérie Ayé a terminé à la deuxième place derrière Jordan Bardella lors des élections européennes avec un écart de 17 points et elle a porté une part de responsabilité de cet échec alors que personne ne voulait être candidat.
Manon, merci beaucoup. Manon, Catherine, elle en dit long cette séquence qu'on a entendu un petit extrait sur ce mansplaining finalement qui s'invite même au sein d'une campagne comme ça, Valérie Ayé qui est en train de donner une conférence et tout à coup Gabriel Attal qui passe par là complètement par hasard pour nous expliquer quand même les choses un peu mieux. Ça paraît presque comique.
Mais c'est pas comique du tout et c'est assez fréquent. Et puis si elle avait réussi, ça aurait été grâce à son intervention parce qu'il est arrivé un peu par hasard et franchement, heureusement qu'il était là ce jour-là. Bon, là, elle a perdu, donc on n'est pas revenu sur la séquence.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Ça a été indéniablement l'un des principaux non-événements de la semaine. J'ai eu les équipes de 7 à 8, elles hésitent à en faire un sujet. La publication sur Strava, largement repartagée sur Instagram, Facebook et Grindr, de la traversée du Retors par Pierre Courade. Traversée du Retors qui n'est pas le premier porno gay mettant en scène Cyril Lacarrière, mais bien la traversée d'un massif jurassien sous la pluie par un Pierre Courade rouge de rage, car je cite, il ne pensait pas en arrivant à Bellegarde qu'une ville pouvait être plus moche que Tourcoing. Pierre, si vous êtes remis de vos émotions, merci de nous résumer le phénomène de la falaise de verre en une minute chrono.
Et la falaise de verre, une notion très intéressante que nous avons pu découvrir cet après-midi grâce à notre invitée Catherine Bonneville-Moravski qui a créé un cabinet conseil en mixité en entreprise. Cette falaise de verre, c'est lorsqu'on place une femme à la tête d'une entreprise en difficulté, charge à elle de sauver les meubles. La mission est impossible, la femme est bien numéro 1, mais elle se plante, elle se crache du haut de cette fameuse falaise de verre. Les hommes pourront toujours dire, vous voyez, les femmes ne sont pas faites pour ce genre de poste à responsabilité. société. Ça nourrit les discours machistes et on revient au point de départ puisque l'idée même de placer une femme dans une position ingérable est machiste. Surtout si on se dit qu'une femme peut éventuellement réussir en utilisant son charme ou son instinct maternel, c'est l'autre versant de la falaise de verre. Bref, tout ça pour dire que ça reste très rétrograde, d'autant que le mécanisme joue sur le fait que peu de femmes accèdent encore aujourd'hui à un poste à responsabilité. C'est ce que nous a expliqué notre invitée. Elle nous dit aussi que refuser une telle promotion pourrait avoir des conséquences tant sur sa vie professionnelle que sur le rapport des femmes au pouvoir, encore largement suspect. Les femmes sont donc piégées de toutes parts, c'est la définition même du cadeau empoisonné. On trouve des exemples dans le milieu de l'entreprise, comme Isabelle Kocher chez Engie, mais aussi en politique, Anne Hidalgo à la dernière présidentielle, Agnès Buzyn aux dernières municipales, Valérie Ayer aux dernières européennes, que des femmes pour tenter de sauver les miches des hommes qui restent, eux, bien au chaud. La falaise, elle, est souvent verglacée.
Merci beaucoup, Pierre, et vous avez retrouvé votre teint à peu près normal. Enfin, une question me taraude, Tania Dutel, aujourd'hui, quand vous étiez serveuse au Buffalo Grill, est-ce que vous avez dû faire face vous-même aux falaises de verre ?
Est-ce que c'est vraiment ce qui vous intéresse ? Bien écoutez, je travaillais au Buffalo Grill à la grande époque, hein, puisqu'on ouvrait le 300e Buffalo. Et j'avais pas de poste à responsabilité, puisque je me contentais d'apporter les salades d'accueil et de vendre des mini-pony express. Voilà, bisous à l'équipe. Alors, les falaises de verre, Kézako. Donc, le concept de falaise de verre désigne une situation paradoxale. Les femmes se voient souvent confier des postes à haute responsabilité au moment des crises pour ensuite se faire évincer plus facilement. Eh bien, super, et je me suis rendu compte qu'on avait grandi déjà avec ce concept-là, Buffy contre les vampires. Elle a une vie tranquille. Elle déménage à Sunnydale. Hop, tout part en sucette. Elle devient l'élu et elle doit affronter les vampires et les démons. Alors, sauver le monde, déjà, c'est beaucoup de responsabilités à son âge. Elle était en plein lycée. Moi, le bac, c'était déjà très stressant. Donc, si on m'avait demandé, après les cours, d'aller faire des rondes au cimetière du village, en termes de fatigue, j'aurais pas tenu le coup. Je pense même que j'aurais pas assuré au bac. Je sais même pas si j'aurais eu accès au rattrapage. Redoublement sur redoublement, avec mes parents, la Brigitte et le Bernard, qui comprennent pas, qui me disent mais pourquoi à 23 ans j'ai toujours pas obtenu le bac et moi qui peux même pas leur dire que je sauve le monde. Bref, donc Buffy se sacrifie, hein, au scénario on lui colle des gars parce qu'elle peut pas non plus tout faire toute seule. Elle a Giles, hein, derrière qui la regardait, ensuite Angel et enfin Spike. Elle a tué tous les vampires et les démons, mais quand ça allait pas, ils étaient pas très sympas avec elle, donc elle risquait sa vie toutes les nuits. Bah, et bien sûr, il y a qu'à faire comme ça.
Sauf que Buffy n'a pas été évincée.
Je vous demande pardon. Dois-je rappeler qu'elle a été destituée de son rôle de leader pour le donner à Face, entre autres, c'est Buffy qui sauve le monde, mais dès qu'elle a un petit coup de mou, elle devient le problème. Dingo. Est-ce que vous vous rendez compte de la charge mentale ? C'est-à-dire qu'à sa place, déjà, je me dis, moi, je fais pas de gosse, hein, je vais pas me rajouter ça, non. Elle a une charge émotionnelle. Je me permets de rappeler qu'elle tombe amoureuse d'un vampire, c'est quand même pas de bol. Elle est jugée sans cesse. Sa mère, quand elle l'apprend, évidemment, elle comprend pas et elle a peur. Moi, la Brigitte, si j'avais dû lui annoncer que j'étais l'élue. Bon, elle aurait compris au final pourquoi j'avais pas eu mon bac, mais elle aurait été inquiète comme tout. Hein. Et la fameuse pension dont j'étais menacée, j'y aurais fini.
Alors, certainement, mais on a compris que vous aimiez beaucoup Buffy, mais sur la question économique des falaises de verre, vous avez quelque chose à dire ?
Disons que j'appréciais fortement la trilogie du samedi. Et c'était mon prochain point. Hein. Permettez-moi de vous poser une question. Connaissait-on le projet professionnel de Buffy ? Parce qu'elle est pas née en se disant « Je vais tuer des vampires et des démons mal maquillés ». Oui, les effets spéciaux n'étaient pas fous. À moins que la théorie d'Elisabeth Borne sur le fait que les enfants doivent pouvoir se projeter professionnellement dès la maternelle soit vraie, mais me concernant, non. Hein. Donc on sait que Buffy est allée à la fac et elle a dû abandonner. Bah oui, il fallait qu'elle sauve le monde. J'imagine que c'était difficile pour elle d'arrêter parce qu'elle était devenue une mère de substitution en sauvant les copains et certainement qu'elle avait peur qu'en stoppant l'activité, on allait lui reprocher d'être trop fragile ou trop émotionnelle. Alors c'est bien beau hein, d'être propulsée au rang de sauveuse du monde en pleine crise, mais ça lui payait pas le loyer. Sa maison se faisait constamment démolir, faut payer les ouvriers derrière et elle rafistole sa maison à chaque épisode. Chaque épisode, maison neuve, vie sauvée, mais pas de proposition sérieuse de CDI, ni de prime de risque. Et la carte resto, j'en parle même pas.
Merci beaucoup Tania Dutel pour cette analyse fouillée. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et le lundi 16 juin pour la dernière date parisienne de l'année au Théâtre Antoine. Je recommande à tout le monde de suivre vos tentatives de faire une affiche, une par ChatGPT sur Instagram. L'IA et vous, ça fait deux. Merci Catherine Bonneville-Moraski de nous avoir initié à ce concept de falaise de verre. Oui Manon ?
Non mais parce que bon, c'est vrai que vous, l'IA et vous...
Ah moi je me fais très très bien l'IA. Ouais, je fais des très très jolies choses. Je les garde pour moi.
L'informatique, l'informatique est vous déjà.
Je rappelle votre livre, Catherine, La mixité en entreprise, tout savoir pour agir, aux éditions Ellipse. Zoom Zoom Zen.